Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, deux mobilisations mais qui n'ont rien à voir à Rennes, le reportage d'Ambre, un retour sur l'alerte lancée par des personnes en situation de handicap à propos de dysfonctionnement à la MDPH, il y aura de la musique dans une nouveauté, une interview avec l'équipe de L'Œil d'Oudac qui organise son 13e festival consacré aux vidéos poétiques et politiques, et puis deux recommandations pour votre jeudi 16 mai. Bienvenue dans l'arène. Et vous le savez, l'émission d'information locale, elle débute toujours avec l'info du jour. Une que je choisis parmi d'autres, parmi ce qui se raconte dans l'actualité locale. Bon, aujourd'hui, c'est deux infos du jour. D'abord, au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet, où près de 200 membres du personnel étaient réunis pour une journée prison morte ce mercredi. Une façon de rendre hommage à leurs collègues qui ont été tués hier. Alors, on rappelle les faits. Mardi 14 mai, un fourgon pénitentiaire a été attaqué au niveau d'un péage dans l'Eure. Ils étaient au moins 5 assaillants équipés d'armes de guerre pour libérer un détenu qui était dans ce fourgon. Ce dernier, au lourd casier judiciaire, il est depuis recherché. En tout, ce sont deux agents qui ont été tués et 3 gravement blessés. À la prison de Rennes, les agents expriment à la fois de la tristesse et de la colère. On lit dans les colonnes de Ouest-France les mots d'Éric Toxé du syndicat UFAP UNSA Justice. Nous sommes abasourdis par ce qu'il s'est passé. Nos collègues ont été abattus comme des chiens. J'ai 30 ans d'expérience pénitentiaire et je n'ai jamais connu ça. Tout le monde est encore sous le choc. Le mouvement de grève, quant à lui, pourrait être reconduit demain. Deuxième mobilisation dont je souhaitais dire un mot, c'est celle de l'Assemblée Générale Palestine Étudiante de Rennes qui a installé un campement sur le campus de Beaulieu lundi 13 et mardi 14 mai. La police nationale et la brigade anticriminalité sont intervenues en fin de matinée hier. Une opération jugée brutale par l'association France-Palestine Solidarité de Rennes qui tient à apporter son soutien aux étudiants et qui regrette la façon dont l'intervention s'est déroulée. Arrachage de tentes, commentaires déplacés et interpellation de 3 étudiants, dont l'une de façon violente, AFPS Rennes qui rappelle enfin les motivations de cette mobilisation qui n'est pas nouvelle, à savoir dénoncer les liens étroits entre l'université de Rennes et Thales, une entreprise du coin impliquée dans la fabrication d'équipements vendus à l'armée israélienne. Allez, après cette double info du jour, on continue avec un reportage. Et ce reportage, c'est un retour sur une autre mobilisation, celle de personnes en situation de handicap qui étaient rassemblées lundi 13 mai près de la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Les personnes mobilisées, elles dénoncent des dysfonctionnements de la structure qui est pilotée par le département. Depuis, la vice-présidente en charge de cette question, Armelle Billard, elle a réagi sur les ondes de France Bleu Armorique en invoquant des raisons organisationnelles et démographiques à ces défaillances. Le reportage réalisé par Ambre, étudiante en stage venue de la SCOL, c'est maintenant.
On est vraiment en mode survie, c'est plus possible.
Je peux pas me lever seule, je peux pas aller aux toilettes, je peux pas manger et je peux pas m'occuper de mon fils. Et ça, c'est intolérable. Ce n'est plus possible. Stop. Moi, j'en veux plus.
Salut, c'est Ambre. Aujourd'hui, retour sur le rassemblement organisé lundi dernier par le collectif Action MDPH 35 à Rennes. Une rencontre pour dénoncer les dysfonctionnements de la maison départementale pour les personnes handicapées. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la MDPH, c'est le guichet unique d'accès aux droits et aux prestations pour les personnes en situation de handicap. On en recense une par département. L'été dernier, la CNSA, ou Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, a publié un baromètre concernant l'activité des MDPH. Et en ce qui concerne l'Ille-et-Vilaine, le bilan est accablant quand on regarde le délai de traitement des dossiers, compté un an voire plus avant d'obtenir une réponse contre 5 mois en moyenne au niveau national. C'est donc un an d'attente, voire plus, avant d'obtenir une aide bien souvent vitale. On est donc bien loin du délai de 4 mois pourtant prévu par la loi. Et il n'y a pas que ça. Une fois que le dossier est passé en commission et qu'il a été accepté, il faut encore attendre de percevoir les prestations de compensation de handicap ou les allocations d'aide. Comptez encore 6 mois. On ne va pas vous le cacher, le sujet est pointu, mais aussi très obscur si on évoque l'aspect administratif. Pour vous l'expliquer, le mieux c'est encore de laisser la parole aux personnes concernées. Dans ce reportage, vous entendrez le témoignage de celles et ceux qui ont eu le courage de s'exprimer, publiquement ou non, sur l'impact de ces dysfonctionnements au quotidien. Attention, ceci est un SOS.
Alors moi je m'appelle Erkan Aksünger, j'ai 40 ans et je suis père de famille. Je viens ici aujourd'hui pour dénoncer les dysfonctionnements de la MDPH. Parce que à titre personnel, ça fait 6 mois que j'attends une réponse favorable pour la poursuite de mon dossier. C'est même pas une nouvelle demande, c'est la poursuite parce que je suis handicapé de naissance. C'est pas quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. En fait, on le sait tous. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'arrivais à la fin de mes droits, c'est-à-dire au bout de 10 ans, moi j'avais fait ma première demande en 2012 en arrivant en Bretagne. Donc du coup, 10 ans après, ils me demandent de refaire mon dossier. Seulement, dans la loi, c'est marqué qu'ils doivent vous prévenir 6 mois avant par un courrier recommandé, ce qui n'est pas le cas actuellement au niveau de la MDPH. Et en plus, ils vous culpabilisent de ne pas l'avoir fait. Mais entre-temps, moi, j'ai une vie de famille, j'ai un enfant, j'ai un handicap qui prend beaucoup de place. Ma femme est handicapée aussi. On est tous les deux handicapés, on a tous les deux un enfant. Et on a autre chose à penser que de refaire un dossier tous les 10 ans. Quoi. Moi, mon handicap, il est là à vie. J'ai pas de délai pour vivre, en fait. Moi, j'attends plus leur délai, j'en ai marre. J'en peux plus.
Alors moi j'ai eu une expérience personnelle, c'est pas juste pour ça que je suis là aujourd'hui, mais c'est vrai que il y a 2 ans j'ai fait une demande de dossier MDPH. Bon, j'avais pas beaucoup de diagnostics à l'époque, donc c'est sûr que je m'attendais pas à avoir. Je m'attendais pas à avoir beaucoup d'aide, je voulais juste être reconnue handicapée déjà. Et en fait moi j'avais des diagnostics qui montrent clairement que je suis handicapée. Mes médecins reconnaissaient déjà que j'étais handicapée, j'ai des diagnostics qui le montrent et pourtant le retour c'était que j'avais une invalidité à 0%. J'étais juste pas handicapée pour la MDPH alors que... Par exemple, moi j'ai besoin d'une carte d'invalidité parce que je ne peux pas attendre debout, je ne peux pas faire de file d'attente, j'ai besoin de m'asseoir dans le bus. Mais la MDPH a jugé que j'étais pas handicapée. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est reprendre à zéro. Il faut que je reprenne le dossier comme si j'en avais jamais fait en fait. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'attendre d'avoir plus de diagnostics parce que je sais très bien, enfin j'ai 2 diagnostics qui sont en cours et je sais que avoir plus de diagnostics, c'est avoir plus de chances d'être reconnu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre ça. Dans tous les cas, ouais, quand c'est un refus complet, il faut recommencer en fait.
Et est-ce qu'on est bien informé des recours possibles dans ces cas-là? Est-ce qu'on arrive à vous aiguiller?
Alors au moment où j'ai eu le refus, moi j'avais rien eu. Déjà, on ne peut pas les contacter, on ne peut pas les appeler, on n'a jamais rappelé. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à des gens autour de moi qui avaient eu des expériences. C'est eux qui m'ont dit quoi faire, en fait. Qui m'ont dit, recommence le dossier, relance
en fait, les informations sur les possibles recours et tout ça, ce n'est pas la MDPH qui les donne eux-mêmes, c'est on les a parmi deux personnes qu'on connaît. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on se dise... Oui, je vais devoir attendre d'avoir plus de diagnostics parce que si ceux qu'on a déjà sont censés suffire pour dire là on est handicapé, c'est pas normal qu'on doive attendre d'en avoir toujours plus de diagnostics et de choses qui prouvent qu'on est handicapé et qu'on doit faire tous ces recours. En fait, c'est juste pas normal déjà et puis c'est pas... on doit toujours se justifier plus en fait de notre état pour avoir ce qu'on mérite en fait, et c'est pas normal.
En fait, déjà, faut savoir que quand on envoie un dossier, on n'a pas de retour.
Oui, vous avez la sensation d'être complètement ignoré.
Ouais, c'est ça.
Moi, mon vécu, c'est un peu proche, sur certains points. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, je suis d'origine région parisienne. J'ai été diagnostiquée en région parisienne d'un TSA.
Et qu'est-ce que c'est un TSA ?
Trouble spectre autistique. Merci. Et avec le TSA, j'ai pu, avec la MDPH sur place là-bas, avoir une reconnaissance de l'handicap pour tout le temps, en fait, à vie, parce que le TSA, ça ne disparaît pas. Et en arrivant sur Rennes, en fait, la MDPH a contesté mon diagnostic. Ils m'ont fait repasser le diagnostic au CRA, qui a au départ voulu me retirer en fait le diagnostic. Ensuite, j'ai pu avoir mon diagnostic, mais en fait, ce doute leur a permis de me mettre un handicap un handicap qui pourrait partir en fait, qui pourrait disparaître. Ce qui fait que je dois renouveler mon dossier tous les ans, ce qui est une paperasse énorme. Moi, je ne peux pas la gérer en tant que TSA. C'est mes parents qui sont obligés de le faire. Si je vivais seule, en fait, je ne pourrais pas avoir ces dossiers. Et actuellement, en fait, malheureusement, on a un document qui n'est pas arrivé à temps pour faire le dossier. Et du coup, ça fait un an que je ne suis plus reconnue handicapée. Je pourrais avoir normalement certaines allocations que je n'ai pas. Je n'ai pas la reconnaissance handicap non plus. Je voulais cette année demander une carte de mobilité réduite pour pouvoir me déplacer, parce que j'ai une canne, hein, c'est pouvoir en fait m'asseoir notamment dans les bus, et je ne peux pas non plus faire cette demande. Il y a beaucoup de choses, notamment aussi pour la garde. En fait, normalement, il y a une possibilité d'avoir la garde de personnes handicapées. Que pour mes parents, quand j'ai des problèmes, ils ne peuvent plus l'avoir non plus. Ça pose énormément de soucis au niveau de mes droits actuellement. C'est très compliqué pour vivre avec ça.
Il y a une réalité commune, c'est la MDPH. Et c'est une institution déshumanisante. Pour info, pour les personnes valides, quand vous faites votre dossier MDPH, vous avez tout un pan qui s'appelle projet de vie. Alors le projet de vie, il faut rédiger. En gros, c'est tu vends ton utilité à la société, ou alors t'en es réduit à justifier le droit d'exister. Après, tout ça pour obtenir quoi ? Un pourcentage d'incapacité calculé sur quoi ? Ta rentabilité. C'est-à-dire ta participation moindre ou nulle à la production capitaliste. Parce que c'est cette incapacité à travailler pour un emploi rémunéré qui pourra faire en sorte qu'on octroie ou non des aides comme un revenu minimal. Et non, je ne parle pas du SMIC, mais des 900 balles de l'AAH. C'est comme pour le RSA. Apparemment, le minimum de thunes pour qu'un humain vive, ça dépend de son insertion ou non sur le marché du travail. Certains vont me dire, mais c'est mieux que rien. Ok, ça le serait si je pouvais y prétendre et recevoir une réponse dans le délai légal de 4 mois et pas d'un an à 2 ans. Tu passes des mois à faire ton dossier pour, dans un premier temps, avoir le récépissé qui te dit que ton dossier est complet, et ironie du sort, le récépissé te rappelle que selon la loi, on te recontacte d'ici 4 mois. Et moi, j'ai eu ce récépissé. Ouais, j'ai une maladie neurologique, je fais partie des gens avec un handicap invisible, comme on dit. Et j'ai eu ce récépissé en juillet 2023. Donc moi, je suis syndiquée quand même de base, donc je suis quelqu'un de très prévoyante et qui a beaucoup de facilité avec les papiers. Donc j'ai fait tout mon dossier trop bien, il m'a fallu 3 mois pour faire mon dossier. Donc récépissé, tout validé, juillet 2023, je me dis nickel. Pourquoi est-ce que je m'y suis mise aussitôt ? C'est parce que je savais qu'en juillet prochain, donc là, je n'aurai ni logement, ni revenu. Et qu'il me faudrait une reconnaissance de handicap pour avoir des aménagements au concours de la fonction publique que je souhaitais passer. Mais pas de réponse. Donc voilà, sans RQTH, ni AAH, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer et manger en juillet prochain. Alors, continue mes études. Et cette situation d'incertitude concernant mes conditions matérielles d'existence, donc revenus et logements, elles m'ont conduite à puiser dans mes dernières ressources jusqu'à me bousiller la santé et finir à l'hôpital en février dernier. Oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai tellement désespéré que j'ai eu des idées suicidaires. Et aussi bien les soignants que les assistantes sociales étaient désolés de ma situation, car toutes les démarches avaient été faites. Et on s'est tous pris le mur qu'est la MDPH, ses délais de réponse déconnectés des réalités de vie, sa violence bureaucratique.
Pour ce qui est de la MDPH, j'ai constitué mon dossier en 2020. J'ai eu la réponse en décembre 2023. Voilà. J'ai eu ma réponse en décembre 2023. Alors non, c'est encore pire que ça. J'ai eu ma réponse en octobre, sauf que la CAF a fait renvoyer mon dossier en novembre, ce qui fait que je n'ai eu la réponse qu'en décembre. Donc oui, ça traîne systématiquement, et nos vies ne peuvent pas se permettre en fait d'attendre autant de temps. Alors Dieu merci, mon handicap n'est peut-être pas aussi sévère que certaines personnes, donc j'étais pas nécessairement dans l'urgence, mais le temps que ça a pris m'a mis dans une détresse psychologique qui n'est pas négligeable, puisque du coup j'ai habité seul depuis mes 17 ans et que en ayant un loyer à payer, des factures à payer, si la MDPH ne m'aidait pas, je me retrouvais à découvert tous les mois. Et là encore, la baisse ne m'aide pas à pouvoir gérer la plupart de mes dépenses en fait. Ils prennent énormément de temps alors que les gens, le délai minimum pour un traitement, ce qu'ils notent officiellement sur le dossier MDPH, est de 4 mois. La réalité, c'est que ça peut durer 3 ans en fait. Ça peut durer 3 ans, ça descendra jamais en dessous de 4 mois. Et la réalité, c'est plutôt que ça tourne autour de 6 mois en fait. Ils sont excessivement peu réactifs pour tout en fait, qu'on leur envoie des mails, qu'on aille les voir, etc. Ils préfèrent nous dire que il faut juste attendre parce que le dossier est en cours de traitement. Ça devrait pas être normal qu'on soit traité comme ça en fait. Je comprends pas pourquoi les délais sont aussi longs.
J'aimerais bien que le département prenne la mesure de notre danger. On a été largement patients, on les a contactés plein de fois, ils sont bien au courant de nos revendications, etc. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change et que ça s'aggrave. On veut que ça change et qu'ils prennent les mesures nécessaires. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une fatalité, il y a des départements où ça se passe très bien. On voit bien qu'on est à la ramasse. Ouais. Et ce n'était pas le cas il y a quelques années. Comme quoi, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Quoi.
It's a long old road, my friend. It's a hard, hard road to walk. It's a long, long road to tread. It's a long old road, my friend. Well, his daddy never said much to care. Spoke with a belt of patience then. When you cried or asked for
and the Co-Operators sur Canal B avec le morceau Hard Road. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à la radio. Un titre que vous retrouverez bientôt sur un album Sounds from the Fridge. C'est attendu pour le 24 mai chez Waggle Dance Records. Ce sera le deuxième disque issu de la collaboration entre ces deux Britanniques et dont vous venez donc d'entendre un extrait dans l'Arène, cette émission d'information locale qui vous tend son micro si vous avez une action ou un événement annoncé aux auditeurs qui relève de l'information locale, qu'il s'agisse d'environnement, de vie étudiante ou rurale, pourquoi pas de féminisme, j'oublie sûrement des sujets. N'hésitez pas en tout cas à me contacter par email à l'adresse lucie@canalb.fr et je reprends contact ensuite avec vous pour vous proposer un échange ici en studio, un reportage sur le terrain. On peut aussi en parler sous forme de recommandation du jour. Pour le moment, l'Arène, elle se poursuit avec une interview. Graciane, Harry et Blue, bonjour.
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 Je vous présente. Alors, vous venez là pour présenter un festival qui s'appelle Oudak avec l'association L'œil d'Oudak. Et pour présenter un peu vos fonctions, Graciane et Harry, vous êtes volontaires en service civique dans l'association. Et Blue, vous en êtes coordinateur et puis aussi à la direction artistique. Alors, le festival Oudak, il va fêter sa 13e édition du 15, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 mai, dans plusieurs lieux rennais. On va y venir. Et à l'organisation, donc on retrouve cette association, L'œil d'Oudak, qui a été créée il y a plus de 15 ans, c'était en 2008. Sa mission, c'est d'explorer et diffuser des images poétiques et politiques. On dit un peu combien vous êtes aujourd'hui dans les équipes, puisque le projet il a évolué avec les années qui se lancent. Blue.
Dans l'équipe de coordination du festival et des activités de l'association, donc on est trois, Harry, Graciane et moi, Blue. On a été accompagnés aussi pour le festival cette année par une artiste, Hilary Galbraith, qui est également professeure d'art vidéo à l'ESAB, l'École des Beaux-Arts de Rennes. Et sinon, dans le reste de l'équipe, il y a le CA qui nous accompagne un peu sur la coordination de tout le projet. Et puis, on a une petite équipe de bénévoles aussi qui nous accompagne et qui nous aide grandement pour la réalisation du projet du festival.
Qu'est-ce qui vous réunit tous? Vous avez tous un intérêt pour les créations vidéo? Il y a peut-être des vidéastes, des profils étudiants. Qui êtes-vous?
Alors, je crois que dans l'équipe, il y a pas d'étudiants, étudiantes. Je laisserai peut-être la parole à Harry et Graciane pour se présenter après. Mais je pense qu'il y a un point commun là qui nous relie, en tout cas toutes les trois, c'est qu'on est intéressés et ou carrément on a un pied dans la création artistique. Et aussi, je pense qu'on a des profils assez militants, en tout cas intéressés par... On se saisit en tout cas d'enjeux contemporains, féministes, queer, etc. Et bah, je le nomme ici parce que ça a transparaît dans la programmation du festival cette année.
Qu'on va détailler dans un instant. Graciane et Harry, comment vous vous êtes retrouvés volontaires en service civique dans cette association qui a l'œil d'Oudac? Graciane?
Alors moi, en fait, j'ai terminé mon master de création numérique il y a très peu de temps, cet été. Et donc, moi, je suis plutôt sur de l'image fixe et j'ai lancé mon activité artistique il y a très peu de temps. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas découvrir l'art vidéo finalement, et ça m'a ouvert à d'autres perspectives.
Et Harry ?
Moi, pareil, j'ai terminé mes études l'année dernière où j'étais plutôt en graphisme pour le coup. Et comme Blue disait auparavant, j'ai un profil assez militant. Et quand j'ai découvert l'asso L'œil d'Oudac, où l'année dernière, c'était déjà une programmation qui était liée aux luttes et des enjeux contemporains, tout ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre à profit mes connaissances de graphisme pour être dans cette association et pourquoi pas en même temps un peu chapeauter ce projet qui me tenait assez à cœur. Parce que oui, la création artistique globale, c'est quelque chose qui m'intéresse assez.
Alors il faut peut-être quand même si le projet évolue avec les années, réexpliquer ce que ça veut dire. Oudac, c'est pas un mot choisi au hasard, c'est le nom d'un lieu en fait, Blue.
Alors en fait, c'est le nom d'une île, et le nom de cette île vient d'un explorateur qui était Inuit, qui venait des communautés Innu en fait. Et il est parti avec un groupe d'explorateurs occidentaux à la découverte du Groenland, et au large du Groenland ils ont découvert cette île qui en fait n'est pas vraiment une île, c'est plutôt un amas de roches et de sable, et donc il a donné son nom à cet amas. Et ce nom-là a été choisi par les fondateurs, fondatrices de l'association, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas où est cette île. Elle est partie à la dérive au large du Groenland. Et en fait, ils ont utilisé cette métaphore comme une métaphore des images en mouvement, puisque l'association est depuis ses débuts spécialisée en art vidéo. C'était une façon de trouver une façon poétique de parler des images dans la création artistique qui sont quelque part entre imaginaire et réalité.
Pour l'explication donc du nom du festival et de l'association Oudac, dont on annonce la programmation aujourd'hui pour une 13e édition qui arrive à partir de ce mercredi 15 mai. Le festival quand même qu'on annonce, c'est pas la seule action qui est menée par votre association, puisqu'il se passe aussi des choses le reste de l'année.
Le reste de l'année, en effet, si on le peut, on essaie d'accueillir au moins un ou une artiste en résidence sur un temps de préférence assez long. Là d'ailleurs, on vient d'accueillir un artiste, Aube, qui a été accueilli dans nos locaux pendant une période de 4 semaines. Et sinon, le gros de l'activité aussi, c'est l'organisation d'ateliers, résidences qu'on mène avec des artistes auprès de publics qui sont dits éloignés de la culture. Donc par exemple, on intervient en prison, en établissement scolaire, en EHPAD. Et pareil aussi, de préférence, toujours sur des temps longs pour qu'il y ait le temps dans les projets que des liens se créent au-delà de la création artistique.
Et c'est peut-être aussi ce qui rend votre projet assez particulier, c'est que les vidéos et les images dont on est un peu abreuvé de façon très importante aujourd'hui dans notre quotidien, ce sont des images, alors je ne sais pas si elles sont poétiques, et surtout elles ont un temps qui est très court et qui ne fait que passer. Vous, là, vous menez un projet justement sur un temps plus long.
Là, particulièrement dans cette édition du festival, on a plutôt sélectionné des vidéos qui sont relativement longues par rapport au format vidéo en fait qu'on trouve maintenant où tout va très vite. Alors j'ai l'impression que plutôt la programmation vidéo de cette année, c'est une invitation aussi à se poser, à prendre le temps d'aller découvrir d'autres formes, et d'avoir un autre regard sur ce format vidéo dont en effet on est abreuvé de partout en ce moment.
Et puis plutôt avec des messages commerciaux, alors que là c'est pas du tout votre but, puisque c'est le thème des luttes contemporaines et des enjeux sociaux que vous explorez cette année, lutte politique, écologique, queer, mais aussi féministe. Et donc le festival, il commence ce mercredi 15 mai, ça se poursuit jusqu'à dimanche. Votre objectif, c'est de mettre en lumière et puis en réflexion des images nomades et poétiques. Il va se passer plein de choses au Théâtre de la Parcheminerie durant le week-end, mais il y a aussi des projections à découvrir un petit peu avant dans deux autres lieux. Il est un tout petit peu trop tard à l'heure où est diffusée cette interview pour parler de ce qui se passe au Champ Libre, mais on peut annoncer ce qui se passe jeudi. Jeudi 16 mai, du côté, c'est dans un bar, c'est ça, Graciane ?
Oui, exactement, c'est à l'Attrape-Rêve. Et donc on va commencer par une projection qui s'appelle « Je suis composée de matière humaine comme vous ». Et donc on parle pas mal de lutte queer, et ce qui est chouette, c'est que c'est dans un bar queer, et c'est des films qui ont été réalisés par des personnes queer.
Et donc dans ces 5 vidéos à découvrir jeudi à 20h à la Attrape-Rêve, il y sera question de souvenirs lesbiens, de perspectives d'une personne âgée, d'exploration de nouveaux désirs, ou encore de subversion des normes de genre, et je crois qu'il y a de la musique prévue en fin de soirée.
Oui, tout à fait. On va avoir des DJ sets. Donc on aura 3 artistes qui seront présentes. Et donc on aura DJ Clatax, Pégase et aussi Gast de Maboul Distortion.
Ça, c'est pour la soirée donc du jeudi à la Attrape-Rêve, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai. On prend ensuite la direction du Théâtre de la Parcheminerie en plein centre de Rennes. Il y aura des projections, des échanges, des ateliers et des concerts. On commence par la soirée de vendredi à partir de 17h30. Qu'est-ce qu'on va y découvrir ? On comprend en regardant la programmation que vous avez envie de laisser des surprises aux gens qui vont venir, mais un peu quelle va être l'ambiance vendredi ?
Alors le vendredi, ça commence par deux programmes de projection. Les deux, comme toute la direction artistique du festival, s'ancrent dans des luttes contemporaines. La première, ça questionne un peu la construction de l'identité, ça questionne des luttes féministes, des luttes queer. Et la deuxième questionne plus des enjeux de récits familiaux, mais avec un regard décolonial dans la démarche des artistes qui sont présentés.
Alors il faut dire que le nom des propositions, les noms sont assez longs, comme une promesse faite sur le sable, à peine écrite que déjà la mer l'efface. Ça c'est pour la première. Et la seconde, faire n'importe quoi que tu as décidé pour toi, n'importe quoi qui te permet d'acheter ta liberté. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez lancé un appel à projet là, pour trouver des artistes. Ça a marché comment ? Vous avez eu beaucoup de retours ? Ce sont avant tout des artistes locaux ?
On a eu énormément de retours. On a reçu, je crois, pour être exact, 626 vidéos. Voilà, donc ça a vraiment bien marché. On a eu beaucoup de retours. Et c'est pas des artistes locaux. Enfin, c'est vraiment un appel à projet qui est international. Je crois qu'au total, on a 21 nationalités là sur les programmations, enfin les vidéos qu'on a sélectionnées pour le festival de cette année. Et c'est le cas en fait depuis plusieurs années. En effet, on privilégie vraiment des artistes qui viennent de partout.
Le festival Oudak, ce sont des projections, on l'a compris, mais il y a aussi un volet plus performance, notamment lors de la soirée de vendredi à partir de 17h30 à la Parcheminerie. Quel type de performance ?
Alors le vendredi soir, il y a deux performances et un live techno. Les deux performances, c'est deux artistes, Antedemos, qui est familier d'ailleurs de Rennes parce qu'il a fait Generator, qui est un programme de formation slash résidence qui est proposé par 40 mètres cubes, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et là, le deuxième artiste, c'est Jus Bourguin, qui nous vient de Marseille. Et donc le live sera proposé par Midnight Totem, qui est une artiste rennaise. Et peut-être pour dire un petit mot sur les thématiques qui vont être à l'œuvre là dans les performances du vendredi et un peu du samedi aussi. Je crois que dans toutes les formes là qui sont proposées cette année, il y a l'envie de questionner les constructions des identités queer, notamment à l'intérieur de nos communautés. Ça parle aussi beaucoup de care communautaire.
Donc du soin.
Ouais, du soin. Ça parle aussi de comment est-ce qu'on pense l'amour, mais compris dans un sens large, au sein de nos communautés, et comment on se répare, en fait, comment on répare nos vécus, comment on se réapproprie nos vécus, et tout ça par le biais d'expérimentation, de lecture, de formes plus performatives.
Donc des choses plutôt salvatrices qui seront explorées lors de performances. Et il y en aura trois autres des performances le samedi 18 mai, puisque la reprise des hostilités, c'est à partir de 15h, toujours à la Parcheminerie. D'abord avec un goûter rencontre qui sera suivi donc de ces trois performances dont je viens de dire un mot, et de quatre projections. On donne un avant-goût de cette journée du samedi. Toute la programmation, évidemment, à retrouver en ligne.
C'est toujours très en lien avec ce qui se passe tout le reste du festival. Donc pareil, les quatre programmations du samedi questionnent à nouveau des luttes féministes, à l'aune aussi du développement de nouvelles technologies, avec notamment une projection le samedi qui s'appelle « Je préfère être cyborg que déesse », qui est une phrase qu'on emprunte à Donna Haraway. Et pareil, ça questionne à nouveau des enjeux antiracistes, la question des identités trans, et notamment au vu du contexte social, ça nous semble hyper important ces projections. Et justement, le samedi après-midi, en lien avec tout ça, on a souhaité inviter aussi des associations. Donc il y aura avec nous SOS Méditerranée et également ISKIS, qui est le centre LGBTQIA+ de Rennes. L'idée, c'était d'avoir aussi des personnes qui sont sur le terrain et qui vont être à même d'apporter un regard de terrain quoi, sur ces enjeux-là.
Je détaille pour les auditeurs qui n'ont pas le sigle LGBTQIA+, pour lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe et asexuel. Je me suis pas trompée. Je l'ai en entier, ouais. Qui sera donc présent samedi 18 mai au Théâtre de la Parcheminerie. Et le festival Oudak 13e édition, il se terminera dimanche avec encore beaucoup de choses à voir tout l'après-midi. Des projections, évidemment. Une autre forme, celle d'un atelier projection et puis de la musique. Pour l'atelier projection, ça veut dire que le public va être amené à participer. Ça va ressembler à quoi ?
C'est ça. Alors on invite Tain de Miral. Elle est réalisatrice et spécialisée en fait sur le cinéma de Barbara Hammer.
Another factor is how the culture values people's documents and whether people themselves have a sense of that they should save their documents. So if you don't, there's not much a biographer can work with.
Barbara Hammer, c'était une américaine lesbienne militante qui est considérée là aujourd'hui comme la pionnière du cinéma queer expérimental. Et l'idée de cet atelier, c'est vraiment que les gens puissent participer, c'est de casser avec un rapport qui peut être parfois descendant, peut-être dans des formats de
masterclass notamment.
C'est ça. Et donc elle va alterner entre des temps de petites projections d'extraits de films de Barbara Hammer, et les publics seront invités à prendre la parole, poser des questions, etc.
Et la journée se terminera avec de la musique, un live d'Amarin Romarin, qui je crois est musicien breton, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
S'il fallait un mot pour décrire sa musique,
doux,
poétique. J'allais dire doux aussi.
Bon, doublement doux alors. Tout ça, c'est à découvrir lors de la 13e édition du festival Oudak qui se déroule du 15 au 19 mai à Rennes, essentiellement au Théâtre de la Parcheminerie. Un événement qui est à prix libre et conscient. Pour plus d'infos, il y a évidemment le programme en ligne sur les réseaux sociaux et puis sur le site internet l'œildoudak.fr. Je vous représente donc Graciane, Harry et Blue de l'association L'œil d'Oudak qui porte cet événement. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Début de matin, lointain, d'hep atteint de trou noir, têtu, exténué et d'avoir survécu, trauma, vortex, légèreté, perdu, instinct rouillé, je sais plus où j'erre, cerveau cinglé, fêlure de fer. Je tourne à l'envers, je tourne à l'envers, je tourne à l'envers quelque part sur la terre. Matin chagrin et journée mort-née, ça se compte déjà en années-lumière. Partout ma dépressurisation, du sas du cerveau, constellation, complexe et lunaire, je sais pas quoi faire, plombé par des pensées parasitaires. Je m'explose dans les poussières d'astéroïdes, envie de rien à part le vide. Cité étoile.
étoiles vivantes, filantes, charmantes, comètes interplanétaires, si t'as les deux pieds sur terre, moi je suis fait que d'antimatière, atmosphère irrespirable et pourtant respirée, étoile triste, est-ce que j'existe, rotation interminable et souvent esquivée, étoile triste, est-ce que j'existe, hémisphère gravité, stratosphère agitée à la surface, mon intersidérale vulnérabilité, mon intersidérale vulnérabilité. Matin lenteur et lunatique, comme une éclosion intergalactique. Nouvelle étoile dans la noirceur, je sens son ardeur homosphérique. Encore temps de télescoper. La voie lactée de nos images foirées, parfois dans les tempêtes des abysses. J'entends encore, est-ce que j'existe? Réveil matin et sans pareil. Éclipse événement exceptionnel, trauma tranquille et bien rangé. Angoisse de mort, rasséréné, je sais pas pourquoi, mais c'est réel. Soleil, réveil, au cas, élève. Ce matin dans cerveau cinglé, c'était plutôt je vais viser. Étoile vivante, filante, charmante, comète interplanétaire. Si t'as les deux pieds sur terre, moi je suis fait que d'antimatière. Atmosphère irrespirable et pourtant respirée. Étoile triste, est-ce que j'existe? Rotation interminable et souvent esquivée. Étoile triste, est-ce que j'existe? Hémisphère gravité, stratosphère agitée à la surface, mon intersidérale vulnérabilité. Atmosphère irrespirable et pourtant respirée. Étoile triste, est-ce que j'existe? Rotation interminable et souvent esquivée. Étoile triste, est-ce que j'existe? Hémisphère gravité, stratosphère agitée à la surface, mon intersidérale vulnérabilité.
Désastre, un morceau du Rennais Amarin Romarin qu'on retrouvera sur scène dans le cadre de la 13e édition du festival Oudak. On vient de le présenter dans une interview. Alors Amarin Romarin, il écrit de la poésie DIY, do it yourself, et aussi un peu punk. Il compose et joue des concerts d'électro entêtante, fabrique des collages et des zines et écrit enfin des histoires de science-fiction dans lesquelles se lover. Voilà pour les présentations de ce musicien. La Rennes, l'émission d'information locale de Canal B, c'est pas fini. Il reste quand même la recommandation du jour. L'émission d'information locale, elle se termine toujours avec des petits conseils d'événements à vivre dans la région rennaise, aussi parfois des idées, lectures, podcasts ou documentaires. Aujourd'hui, deux conseils pour votre jeudi 16 mai. D'abord, de 19h à 22h30 à la ferme de la Harpe, il y a la librairie Planet.io qui organise en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique de Rennes et la Maison Internationale de Rennes une soirée Balkan. Ça fait partie en fait de la programmation Rennes Fête l'Europe. Sur place, le public retrouvera Jean Arnaud des Reims. Il est journaliste et auteur du livre « Des Balkans en 100 questions, carrefour sous influence ». C'est paru en 2023 et ce sera l'occasion avec lui de parler des Balkans entre conflits gelés, nouvelles menaces et perspectives européennes. Et après avoir cogité, le public il pourra danser. Au menu, mix de musique balkanique, bœuf de musique balkanique toujours et club jazz. Et puis évidemment de quoi manger et de quoi boire. Les profits de la soirée seront reversés à l'association Solidarité Bretagne-Ukraine.
Il y a eu énormément d'évolution du projet entre le début, donc entre septembre 2019 et là aujourd'hui en juillet 2021, notamment à cause de la gestion de la crise sanitaire effectivement. On a dû s'adapter à plein d'endroits, que ce soit dans la coopération, dans la collaboration avec les partenaires européens, mais aussi dans la mise en œuvre des sessions de création qui ont été retardées, qui ont été modifiées à plein d'endroits et à plein de moments. Dû à la crise sanitaire.
Le même soir à 20h, il y a aussi le cinéma L'Arvor qui accueille une projection de Fusée de détresse, un projet artistique de coopération européenne qui fait suite à l'Encyclopédie des migrants dont on a parlé à plusieurs reprises sur cette antenne. Fusée de détresse, c'est toujours porté par l'association L'Âge de la Tortue et ce sont 6 épisodes que le public découvrira sur grand écran, un par résidence artistique menée en France, en Belgique, en Turquie, en Espagne, en Italie et au Portugal. L'objectif, c'est le suivant, interpeller celles et ceux qui composent nos sociétés contemporaines sur la situation socio-politique des personnes migrantes en Europe. Les interprètes de la résidence artistique à Rennes ainsi que les partenaires locaux seront présents pour un échange avec le public à la fin de la projection et c'est un événement qui est gratuit mais sur réservation. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.